On est de retour et c'est notre jeudi où c'est notre chronique judiciaire avec la journaliste judiciaire au Journal Le Soleil et dans Dupont le matin. On va la rejoindre tout de suite, Isabelle Mathieu. Bon matin, Isabelle.
Bon matin, tout le monde. Contente de vous retrouver.
Ben oui, moi aussi. Puis surtout que les dossiers dont tu nous parles aujourd'hui, tu sais, des fois, tu nous arrives avec des choses qui sont un peu plus... Puis c'est ça qui est cool aussi. Des choses dont on normalement on ne parlerait pas, qui sont un peu plus...
Plus nichées.
Oui,
plus nichées,
exactement. Hein? Mais ça fait partie de notre justice québécoise et il faut en parler.
Oui.
Fait que c'est bien important. Et mais là, aujourd'hui, on a des dossiers qui sont quand même ça très médiatisés. Mais en même temps, tu as été la première à nous faire découvrir celui dont on va parler, Fredj Haj Massoud, je ne sais pas trop, je m'excuse, mais tu nous avais tellement bien décrit ce que tu avais entendu durant le procès sur l'horreur que ce gars-là a fait vivre à sa femme, et là on arrive au dernier moment de ce procès.
C'est ça, on se rappelle là, qu'en novembre, dans le fond, c'était les représentations sur la peine. On était supposé avoir un procès et il a choisi de plaider coupable, genre deux jours avant la sélection du jury. Mais comme il reconnaissait pas les facteurs aggravants, oui, comme tu le dis, sa victime a dû témoigner. Là, je pense pas qu'on a à revenir sur tous les faits. Hein. C'est vraiment l'histoire dont tout le monde se rappelle, l'ex-conjoint jaloux qui avait versé de l'essence là, sur sa jeune ex-conjointe et il a allumé le feu et il s'est sauvé alors qu'elle le suppliait de l'aider. Il avait rattrapé le lendemain, là, c'était un chauffeur de taxi et là, quand il avait réallumé son cellulaire, les policiers avaient été capables de le retrouver à Drummondville. Donc là, on a eu la preuve de la couronne en novembre. On devait avoir la preuve de la défense, mais finalement, il n'y en avait pas. Alors, ça a été seulement des... c'est le plus important, ça a été les plaidoiries sur la peine cette semaine.
OK, mais bon, Isabelle, tu as écrit que c'était quand même... Comment lui s'est adressé à la cour pour enfin, à la toute fin, faire preuve de remords puis ses excuses? Donc, il n'a pas fait ça, lui, de vive voix. Ça s'est fait comment, ce segment-là?
Oui, ça a été de vive voix, mais c'est quand même assez wise, je pense, de la part de ses avocats, parce que il a pas témoigné dans le cadre de la preuve. Donc, il a pas pu être contre-interrogé par les procureurs de la couronne. Il a utilisé, et c'est tout à fait son droit de le faire, il y a un article dans le Code criminel qui dit que les juges, avant de partir, là, réfléchir à la peine qu'ils vont imposer, le juge doit demander à l'accusé: est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que je parte en délibéré? Et c'est là que Messaoud s'est exprimé. Il avait écrit une lettre là, mais il l'a lu dans le box de détention. Et c'est ça. J'écoutais ça avec attention et j'ai remarqué qu'à ce moment-là, la victime, William Ajamor, elle était plus branchée. J'imagine que peut-être qu'elle savait que ça allait arriver. Les procureurs lui en avaient parlé. Et elle tenait pas à l'écouter parce qu'elle n'était plus branchée à la visioconférence. Donc elle a pas entendu ses excuses.
C'est de la justice d'une autre façon là. Donc, toi là, je continue. Des fois, quand tout le monde est dans la salle, tu sais pas à quel point, mettons, la personne écoute ou entend puis veut comprendre. Mais là, c'est plus que ça. Elle est débranchée de ce moment-là.
Oui, oui, parce qu'elle avait suivi là, les représentations des procureurs de la couronne et tout ça. Là. Donc, parce que c'est de sa vie dont il est des questions. Là. Mais on comprend là, qu'elle n'était pas là à la fin là, quand il s'est excusé, quand il a dit à quel point là, il était désolé, comment il vivait dans la tristesse. Il a même pris à témoin les agents correctionnels en disant, ils appelaient les gardiens. Là. Les gardiens voient tous les jours à quel point... je vis dans la honte et dans la tristesse. Et c'est ça. Il a vraiment voulu insister sur le fait qu'il y avait des remords parce que le bout intéressant cette semaine, c'est qu'on avait accès à son rapport présententiel à Fredj Haj Messaoud. Ça, c'est c'est des agents de probation. Dans ce cas-là, c'est un criminologue qui est allé rencontrer Messaoud en prison. Puis, by the way, ça, si jamais tu avais une entrevue avec un agent de probation là, qui rencontre des criminels comme ça sur une base quotidienne, ça serait super intéressant. Fin de la parenthèse.
Hey, non, mais tu m'enverras des noms.
J'ai aucune idée s'ils ont le droit de parler, là, mais si t'en trouvais un là, qui acceptait, là, ça serait vraiment cool.
Okay.
Donc, bref, l'agent de probation, quand il l'a rencontré, Lui, ce qu'il qualifie, il dit oui, il est capable de nommer la douleur de son ex-conjointe, de ses enfants. On se rappelle que le couple avait deux enfants, dont une petite fille qui était témoin de l'horreur. Et donc, il disait, mais on dirait que c'est des émotions qui ne sont pas ressenties quand il nous exprime ça. Donc ça, c'est la réserve que l'agent de probation fait. Mais lui, Messaoud, il dit, je comprends pas pourquoi il écrit ça, je suis tellement triste, je suis tellement désolée. Et là, vraiment, en cours, là, il était sur le bord des larmes, il avait l'air très désolé. Donc, il voulait dire qu'il n'était pas une menace pour la victime, que quand il allait sortir, il allait aucunement... il allait être en dette envers elle là, toute sa vie.
Moi, la question que j'avais vraiment hâte de te poser, puis là, je comprends que de façon virtuelle, peut-être que tu pourras pas répondre, mais tu sais, des fois, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, les accusés, ouais, là-dedans, là. Puis ils ont le droit de jouer le rôle qu'ils veulent. Mais le juge a le droit de pas le croire. Et des fois, ça va transparaître. Il va écouter, il va prendre des notes, mais tu vois qu'il embarque pas dans le jeu du comédien triste, là. Est-ce que tu voyais le juge, toi?
Alors, malheureusement, ce juge, il s'appelle le juge Guy Deblois. Là, on en avait parlé la dernière fois. Là, c'est le fils d'un autre juge qui avait eu l'accident d'avion. Bon, ben, monsieur Deblois, fils, il n'est pas très, très transparent au niveau des émotions du visage.
Okay.
Donc, je peux pas te dire. Je pense que là, il était vraiment dans son rôle de juge. J'écoute et je prends des notes. Il a pas tout noté ce que l'accusé disait là, et je crois pas que la lettre a été déposée là, j'ai pas eu connaissance de ça, donc il a pris certaines notes, mais il a pas tout noté intégralement là ce que l'accusé disait.
Ce qui est très cool de ce dossier là, cool ou entre très hot, c'est que la couronne, pour une rare fois, réclame la peine la plus sévère.
Oui. C'est moi, pour une tentative de meurtre à Québec, c'est la première fois que je le vois. Hein, on a eu des dossiers de tentative de meurtre, de quasi-meurtre, là, où les gens ont eu des grosses peines, là, je me rappelle de Jonathan Dutille dans Bellechasse qui avait frappé son ex-conjointe à coups de pied de biche. Je pense qu'il y a eu 17-18 ans de prison, tellement les séquelles étaient graves. Mais là, dans le dossier Messaoud, là, la couronne, il a réfléchi. Je pense que je les crois quand ils me disent qu'ils n'ont pas pris leur décision avant de lire le rapport présententiel, qui était très négatif, parce qu'ils voulaient se laisser une marge de manœuvre. Mais là, ils ont dit, il n'y a tellement pas de facteurs atténuants et c'est tellement un individu qui a encore, selon l'agent de probation, un risque de récidive important, que là, c'est pour ça que la couronne demande la prison à perpétuité. Comme c'était un meurtre. Et puis, Mathieu Rochette, un des procureurs de la couronne, l'a résumé en disant, dans le fond, la seule chose qui sépare M. Messaoud d'un meurtrier, c'est le fait qu'il y a des voisins qui sont intervenus, qui ont sauvé la vie de la victime. Et donc, c'est ça. Ils ont plaidé pour la peine maximale. C'est pas si évident que ça de le faire parce qu'il y a très peu de précédents. Ils ont déposé deux causes de l'Ontario où la Cour d'appel, donc le plus haut tribunal de l'Ontario, a maintenu la peine de prison perpétuité. Il y avait notamment un cas, mais dans le milieu des années 90, là, donc c'est pas des choses si récentes que ça, mais dans un des cas, c'était un homme qui avait aspergé sa femme d'acide sulfurique. Il l'avait brûlé sur 25% de son corps. C'était vraiment dans des circonstances là, complètement horribles, avec très, très peu de facteurs atténuants. Et la Cour d'appel avait maintenu la prison perpétuité dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, évidemment, la défense, eux autres, il y avait beaucoup plus de décisions où tu as des peines entre 7 et 15 ans, ce qui est ce que eux réclament, 15 ans est un maximum. Donc, on comprend que c'est ça. En matière de violence conjugale, c'est ça. C'est que chaque dossier est tellement différent. Tu sais, il y a des dossiers où c'est des crimes horribles, mais les gens avaient des dossiers, entre guillemets, plus positifs, là, où il y avait des choses qui venaient un peu entrer dans la balance pour expliquer leurs gestes et tout ça. Donc, ça va être un bon exercice d'analyse là, du juge là-dedans.
Dernière petite question sur ce dossier-là. Est-ce que on évoque le fait que après la sentence, peu importe quelle elle est, est-ce qu'on peut le retourner dans son pays? Est-ce que ça, ou est-ce qu'il est maintenant, puis il y a des enfants qui semblent être nés au Canada, est-ce que ça, il va rester au Canada, peu importe ce qui arrive?
Non, je pense que la question est vraiment pas réglée. Ça, c'est ce que j'ai compris entre les branches, là, okay. Que l'aspect immigration va arriver par la suite de son statut. Mais ça n'a pas du tout été évoqué dans le cadre de ce dossier-là. Là, on était pas. Tu sais, parce que des fois, on en parle quand ça va être des plus courtes peines, là, parce que pour que quand quelqu'un a moins de 6 mois de prison, ça peut préserver son statut au Canada. Là, on n'est pas là-dedans du tout. Fait que c'était pas un point. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que oui, après sa peine, cet individu-là aurait okay. pas de statut ici.
Donc, à suivre, évidemment, oui, au cours des prochaines semaines.
Oui, ça va aller loin un peu. Ça va aller au mois de mai, la peine, parce que le juge Guy Degois partait pour présider un procès devant le jury dans le nord du Québec. Donc, il va être très occupé jusque-là. Donc, on a fixé au début mai là, pour le prononcé de la peine.
Parfait. Maintenant, parlons du dossier du juge de Lille. J'ai deux, trois petites questions à rafale au début. Est-ce que est-ce que le statut actuel de l'ex-juge de Lille, c'est le meurtrier de sa... Est-ce qu'il est le meurtrier
de sa...
Non,
il est présumé innocent, là. Il est présumé innocent, présentement.
OK, mais pourtant, il a été condamné une fois, mais...
Oui, mais on a ordonné un deuxième procès, là. Vraiment, on repart le compteur, là, à ce niveau-là, là.
Parfait. Donc, j'ai pas le droit de dire ça. Parfait. Je voulais que ce soit clair dans ma tête. Mais parce que
accusé du meurtre au premier degré de sa femme. Là. Ça, c'est tout à fait vrai. Là. La couronne l'a redit encore hier avec les nouvelles expertises suisses. Selon elle, ça va toujours dans le sens de ses prétentions, à savoir qu'un jury bien informé en droit pourrait en arriver à ce verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. Et c'est pour ça qu'il continue le dossier. Hein, j'avais aucun espoir hier que ça arrête. Hein, tu sais comment je trouve ce dossier-là compliqué et tortueux. Mais hier, ça ils ont confirmé que ça continue.
Est-ce que c'est futile de croire que c'est uniquement... Écoute, il y a quel âge, l'ex-juge de Lille? Là?
87. 87.
Donc, il verra jamais le bout. Lui, il voulait être libéré. Ben alors, il l'a obtenu. Puis là, tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour ralentir le processus, c'est probablement ce qu'il veut et ce qu'ils veulent, la famille, il faut croire, pour qu'il soit libre jusqu'à sa fin de vie, non?
Honnêtement, là, je pourrais vraiment pas m'embarquer dans cette stratégie-là. Je pense que la requête en arrêt, c'est pas... C'est une arme que eux veulent utiliser parce qu'ils estiment qu'elle est valide et qu'ils ont ce qu'il faut pour la plaider. Puis d'ailleurs, tu sais, le juge Aymon, Jean-François Aymon qui a entendu ça, il s'était très sérieux. Là, il a pas dit ouais, c'est un peu bizarre votre requête. Tu sais, je veux dire, ils ont vraiment fait une preuve de part et d'autre là-dessus. Fait que oui, effectivement, ça l'a laissé que on garde là, on va être en mettons, ça a été en avril dernier, là, avril 2021, l'ordonnance de deuxième procès. Ben, en avril 2022, je t'annonce qu'il n'y aura pas encore eu de deuxième procès. Là. Fait que oui, effectivement, il y a des délais à cause de ça. Mais bon, moi, je pense qu'avec un dossier aussi majeur, c'est à l'échelle de tous les délais qu'il y a eu dans ce dossier-là, c'est pas tout à fait anormal là, que ça prenne du temps. Fait que je m'avancerais pas de dire qu'il y a de la stratégie là-dedans. Là.
OK. Donc là, est-ce qu'on a une idée un peu de ça pourrait procéder à quel moment ou on est encore beaucoup
trop
loin?
Pas tout. Début février, dans deux semaines, les parties reviennent. Et là, le juge pourrait annoncer quand est-ce qu'il va rendre sa décision sur la requête en arrêt. Donc, sûrement d'ici, je sais pas, un mois, deux mois. C'est très dur à dire. Honnêtement, là, c'est très compliqué à trancher. Là. C'était 3 jours de requête très intense. Il y a une montagne de preuves à lire. Et c'est ça. Fait que, bref, on devrait savoir, mais ensuite, il faut fixer, si jamais ça continue, s'il refuse l'arrêt des procédures, ben là, il faut fixer. Et à mon avis, on est rendu à l'automne, là, c'est certain, là, pour avoir une date de procès de danger.
Donc, on est très loin. Et de toutes ces procédures-là, peu importe ce qui va arriver, il sera pas réincarcéré tant et aussi longtemps que le deuxième procès ne sera pas terminé.
Exact. Là, on est en liberté sous condition, là, qui a été ordonnée par la Cour.
Parfait. Maintenant, un dossier, une histoire vraiment bizarre. Un gars qui se défend d'avoir violé sa conjointe parce qu'il y avait une entente avec sa copine qui avait le droit de la violer.
Ouais. Ben, c'est oui, il y a l'aspect sexuel, mais je te dirais que c'est pas ça qui est ressorti le plus. C'était vraiment plutôt de la violence des coups, là, de la violence physique et psychologique. Puis Oui, c'est capoté. Moi, je l'avais jamais entendu, cette défense-là, là, de « on a un deal, je suis le dominant, elle est la soumise », là, comme si c'était une espèce de d'entente. Et le plus capoté, là, c'est que, oui, au début, c'était des ententes verbales entre le gars qui s'appelle Mike Olivier, qui a été déclaré coupable, et sa copine, que moi, j'ai appelée Julie, une ordonnance de non-publication là, sur son identité.
Son ex-copine.
Et ça, oui. Oui, oh, excuse-moi. À l'époque, c'était sa copine pendant 3 ans, mais évidemment, ils sont plus ensemble.
On est dans quel âge, le monde, là?
Quand elle l'a rencontré, elle avait 17 et lui avait 8-9 ans de plus qu'elle, à peu près.
OK.
Et ça se passe, une partie de l'histoire se passe à Québec et une autre partie se passe à Laurier Station dans Lotbinière. Et c'est ça. Au début, là, ça a l'air que tout était clair. Julie, elle est au courant de cette histoire-là de l'entente, mais pour elle, elle avait comme pas trop le choix d'embarquer là-dedans si elle voulait être avec lui, là. Alors que lui, Mike Olivier, fait passer tout ça comme une espèce de consensus dans le couple, et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Mais bref, il a même mis ça par écrit à un moment donné, là, les règles, et qu'il y avait le droit de la punir en tout temps si elle contrevenait aux règles de leur relation. Il y a même une entente écrite qui a été déposée à la cour, peux-tu croire? Alors, c'est ça, pièce D2, ou je suis pas trop sûre de la cote, là, mais bref, ils ont déposé la fameuse entente écrite qui faisait partie
mais
de la
défense. Mais comme quoi? L'as-tu vu, l'entente, toi?
Non, c'est ça, mais je vais te résumer un peu. C'est quoi les règles? Bon, okay. Par exemple, aucun contact verbal avec des garçons, aucun mensonge toléré, aucun contact de Julie avec sa mère. C'est vraiment ça le cœur de la patente. Et si elle contrevenait, c'était des punitions physiques. Ça a été des claques au visage, des coups sur les cuisses. Il dit qu'il l'a déjà envoyé au coin. Et je t'ai dit, là, non, c'est vraiment... Donc, ça allait tout le temps en une gradation là, de violence physique et psychologique. Beaucoup de contrôle sur ses communications, sur ce qu'elle payait, sur ses déplacements et tout ça. Il faisait des fois, comme punition aussi, j'oubliais, il faisait dormir nu sur le tapis de la chambre s'il n'avait pas été une bonne fille.
Puis, Isa, pendant le procès, ouais, tu as utilisé dans un de tes textes, s'il n'a pas... les mots qu'il a utilisés, là, c'est « si elle n'a pas été une bonne fille », mais lui, dans le procès, oui. Lui a dit ça comme ça, donc il ne s'est pas cité, il paraît à ce moment-là, le fait qu'il parlait encore comme ça dans sa tête, là.
Ben là, c'était là je rapportais ses paroles dans la bouche du juge Thomas Jacques qu'il citait dans son jugement. Parce que ça, je suis arrivée à la toute fin de l'histoire. Et donc, c'est ça, la violence va en gradation jusqu'en juin 2020. Là, je pense qu'il s'était fâché parce qu'elle est allée sur Snapchat et elle n'avait pas le droit. Donc, vraiment, il l'a violenté, il l'a projeté au sol, il l'a tiré par les cheveux, il a donné des coups. Et là, les règles étaient rendues plus dures. Elle pouvait plus sortir de la chambre, sauf pour aller travailler ou pour aller aux toilettes. Et là, donc, elle est allée travailler. Elle travaillait dans un restaurant à ce moment-là, Julie. Et la propriétaire l'a vu arriver avec un chandail à manches longues, alors qu'il faisait très, très chaud cette journée-là. Puis elle a dit, ben, Julie, enlève ton chandail, il fait bien trop chaud, tu vas mourir de chaleur. La jeune femme, elle hésite, elle finit par l'enlever, puis c'est là que la propriétaire du resto voit des marques sur ses bras, des bleus, et aussi un collier autour de son cou, style collier à chien.
Elle portait là, encore le collier rendu au resto.
Elle portait le collier en dessous de son chandail. Là, elle l'a fait parler et elle a compris que c'était un... Là, et même Mike Olivier a confirmé ça au procès, c'était un collier d'appartenance que lui avait acheté et qu'elle voulait porter, selon lui. Donc, c'est ça. Autre élément capoté qui a été déposé au dossier de la cour, le collier d'appartenance. Et donc, bref, la propriétaire a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire elle a dénoncé la situation à la police. Et Julie, au début, elle hésitait beaucoup, elle voulait pas, elle avait peur, comme c'est souvent malheureusement le cas, et on le comprend dans ces situations-là. Mais elle a fini, elle aussi, par dénoncer. Elle était dans une maison de ressources d'hébergement, là, et c'est ça. Donc, les procédures judiciaires se sont enclenchées.
Est-ce que cette jeune femme est une victime parfaite pour ce genre de prédateur-là. Et de... Donc, est-ce qu'elle est un peu démunie? Je sais pas comment...
Ouais.
Pourtant, c'est juste que elle est embarquée dans un engrenage qui s'est aggravé de fois en fois et qui l'a emmenée jusque...
Je pense que c'est plus l'engrenage, parce qu'elle l'a bien expliqué, selon ce que le juge rapporte, là. C'était quand même dur pour elle de dénoncer. C'était une relation trouble, dans le sens que il y avait, entre guillemets, il lui démontrait, avec tout ce qu'il faisait, c'était comme pour lui démontrer tellement qu'il l'aimait et qu'il voulait la faire progresser dans la vie. C'était pour ça l'encadrement puis les règles, tu sais. C'est ce que lui disait. Fait qu'elle, elle était dans cette mouvance-là, puis aussi, je pense qu'elle était aussi très coupée de son réseau. Elle était en relation fusionnelle avec lui. Donc, c'était dur, là, de se sortir de ça. Mais bon, bref, au bout du compte, le juge a pas cru pantoute l'espèce de défense, d'entente, de consentement. Il trouvait que Mike Olivier était juste arrogant et avait l'air toujours à dire, à savoir mieux que la jeune femme ce qui était bon pour elle, là. Et que dans le fond, il était pas crédible. Il disait que le consentement, c'était primordial pour lui. De l'autre côté, il disait « j'ai le droit de veto sur tout ce qu'elle fait ». Ouais, donc, ça marchait pas pantoute. Et au contraire, Julie, il l'a trouvé très très franche, très crédible. Elle s'est présentée avec ses qualités, ses défauts. Et au bout du compte, il n'y en avait pas de consentement valide. On était dans un contexte global de soumission. Donc, il a été déclaré coupable de plusieurs chefs de voies de fait ayant causé des lésions. Et là, on va revenir un petit peu plus tard pour les représentations sur la peine.
Est-ce qu'il était détenu depuis le début de cette affaire-là?
Je pense qu'il était en liberté pour une période, mais oui, il était détenu parce qu'il est en attente de procès pour il y a deux autres plaignants. Pas tout à fait, je crois, dans le même contexte. De toute façon, il est toujours présumé innocent dans ces dossiers-là. Mais je sais, il est en attente pour deux autres plaignantes, un peu ce style-là là, de relation conjugale.
OK, puis en aucun temps dans ce procès-là, on a parlé de pratiques sexuelles, de BDSM. T'sais, c'est un peu ça. Ben, j'ai vu des procès.
Oui, mais c'est pas ce qui ressortait le plus, je te dirais, là. C'était vraiment pas. Mais oui, on était dans le côté domination, soumission.
Tu sais, la partie contrat, Isa, hein? La partie contrat, là, de dire ben on a une entente, mais c'est une soumission assumée, puis tout ça, c'est tordu en tabarouette.
Oui, mais dans le BDSM, là, c'est assez frais. Tu sais, l'histoire du pompier, là, de
à Montréal.
Ouais, dans la région de Montréal, là, il vivait en banlieue.
Il avait laissé sa conjointe, mais la fille en question
fille,
dans une cage.
Sa nouvelle décédée, fréquentation, pas d'une cage, est attachée dans la cave, sauf qu'elle est attachée au plafond avec ce genre de collier-là. C'est quand Isabelle parle du collier, elle avait un collier, puis à un moment donné, elle avait pas mangé de la fin de semaine, fait qu'elle a perdu conscience, puis elle est morte étouffée par son collier. Fait que, tu sais, c'est des...
Oui. Mais ça peut, des fois, ne pas du tout être criminel, là. On s'entend, là. Ça dépend vraiment du contexte. Là, on était dans un contexte d'une jeune femme plus jeune, coupée de son milieu, contrôlée dans toutes les facettes de sa vie. Donc, c'est de ça dont le juge a tenu compte. Et c'est pour ça qu'il en est arrivé à le déclarer coupable.
Cool. Fait que...
C'est écrit, l'accusé lui-même reconnaît le contexte d'ultimatum dans lequel les règles sont établies. Ça dit ce que ça veut dire. Hein?
Fait que on verra la sentence qui va être appliquée à cet individu-là. Oui. Donc, Mike Olivier. De ce que je comprends, le restaurant puis le dernier épisode de ça, ça se passait tout dans le Binière, c'est ça?
Exact.
Encore
on était là.
Un endroit où c'est plus facile d'isoler les gens aussi. Tu sais, ce monde-là, là, agresseurs au niveau sexuel, vous regarderez comment ils vont s'être promenés dans plusieurs endroits, puis comme ils vont s'isoler dans des régions où le voisinage ne peut pas être au fait de ce qui se passe vraiment dans la maison. Donc, c'est assez épouvantable. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Fort intéressant encore, et on se reparle dans deux semaines.
Oui, à bientôt.
Au revoir. Isabelle Mathieu, journaliste judiciaire au journal Le Soleil, à découvrir absolument. Donc, voilà trois sujets fort intéressants que l'on a traités avec elle aujourd'hui. Vous êtes dans Dupont le matin. On s'arrête quelques